Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle cerise aujourd'hui en la personne de la journaliste Camille Labraud. Bonjour Camille Labraud.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans cette émission. De quoi allez-vous nous parler pour cette première cerise sur le gâteau ?
Eh bien, d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, en début de semaine, et qui a un petit peu choqué le monde de la gastronomie.
Qui a fait du bruit dans l'Anderneau, comme
c'est
on dit.
Ça.
Alors, ce sera tout à l'heure, aux alentours de 12h25. Matteo Caranta est bien évidemment avec nous pour la Madeleine, le souvenir gustatif d'une personnalité. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, je me suis rendu à l'Opéra Bastille et j'ai été reçu chaleureusement, c'est le moins qu'on puisse le dire, par la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux.
Marie-Nicole Lemieux qu'on entendra donc tout à l'heure à 12h15. Et pour notre plat du jour, nous vous proposons une rencontre autour de l'idée de restaurants éphémères et de cuisine sur mesure. Le sujet nous a été inspiré par une nouvelle génération d'hommes et de femmes chefs qui a choisi de vagabonder d'une cuisine à une autre plutôt que de se poser dans un lieu fixe. Exemple avec nos deux invités. Toutes les deux sont des gourmandes libres, des cuisinières indépendantes. L'une installe des restaurants éphémères, l'autre propose des prestations de cuisine sur mesure pour professionnels et particuliers. Elles ont travaillé ensemble un temps, donc elles se connaissent et nous avions envie de les rassembler dans Les Bonnes Choses pour parler de leur cuisine volante. Céline Pham, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous dans Les Bonnes Choses. Vous êtes donc chef nomade, passé dans quelques bonnes cuisines parisiennes comme The Kitchen Gallery, Saturne ou Septime, avant de voler de vos propres ailes. À côté de vous se trouve Chloé Charles, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous également. Merci. Alors vous êtes chef à domicile, on peut le dire de toute façon, hein, chef à domicile, conseillère en cuisine éco-responsable, et ça on y reviendra bien entendu, et organisatrice d'événements. Vous êtes passée par les cuisines de restaurants réputés comme l'Épi du Pain, comme l'Astrance, comme l'Agapé Substance, Septime aussi, vous avez secondé le chef Bertrand Grébeau pendant 2 ans, et c'est donc là que vous vous êtes rencontrées toutes les deux, Céline Pham et Chloé Charles. Vous avez travaillé ensemble un petit moment. Qu'est-ce qui vous rassemble ? Est-ce que c'est une idée de la cuisine ? Est-ce que c'était une idée de façon de faire la cuisine ? Chloé Charles.
Je pense que c'est la cuisine qui nous rassemble au démarrage. On a plus ou moins la même vision de la cuisine, une cuisine qui est très centrée sur le produit, moderne, avec tout de même un retour à nos racines aussi, qui est finalement la cuisine des trentenaires d'aujourd'hui, je pense.
Céline Pham.
Une cuisine de produit, on a fait un peu le même type d'apprentissage, avec vraiment le produit au centre, et pour trouver notre propre cuisine, je pense qu'on est un peu allé chercher dans nos racines, et pour moi, mes origines, et un peu une cuisine de souvenirs, etc.
Ah, une cuisine de souvenirs, c'est joli ça. Une cuisine moderne, en même temps une cuisine de souvenirs, donc on voit que c'est une cuisine qui est liée au temps qui passe, d'une façon ou d'une autre, Céline Pham.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'une et l'autre, de faire de la cuisine, Céline Pham ?
Peut-être du mimétisme de ma grand-mère, de ma mère. J'ai commencé dans la musique, en fait. Et puis, à 21 ans, j'ai décidé de faire une école de cuisine.
Ferrandi, pour ne pas la nommer.
Oui, et avant ça, je travaillais comme commis à la plonge avec un ancien de l'Arpège, dans le 18e. Et en fait, je pense que le déclic, je me le dis pas vraiment, mais ma grand-mère est partie à ce moment-là. Et c'était, je pense, une façon pour moi un peu de reconnecter un langage. Dans ma famille, on est très peu bavard et très, très, très taiseux. Et on communique beaucoup par de bons repas et de belles petites attentions culinaires. Et je pense que j'ai voulu, quelque part, trouver une façon de lui parler.
Qu'elle était encore là pour vous, d'une certaine façon. Chloé Charles.
Moi, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est parce que j'aime manger.
C'est une très bonne raison, hein.
Et donc, du coup, il y a aussi une histoire de grand-mère. Mais en fait, j'ai toujours aimé manger mon grand-père, en fait, a remis en marche le four à pain. Ils vivent dans une vieille ferme en Bretagne. Et en fait, il a remis en marche le four à pain et s'est passionné pour le pain et s'est mis à faire du pain. Donc, il nous a appris assez jeunes à faire le pain pour toute la famille. J'ai une famille assez nombreuse. Et du coup, derrière la panification, on faisait plein de plats avec ma grand-mère pour utiliser la chaleur du four à pain, et donc on passait l'après-midi à cuisiner, et après on mettait les plats au four qui cuisaient toute la nuit avec la chaleur qui descendait du four à pain.
Et ça reste manifestement très très présent.
Voilà. Et je peux témoigner parce que j'ai fait à manger pour le mariage de ta sœur, donc.
C'est ça.
Et j'ai rencontré toute la famille de Chloé, c'est vrai que c'est des ils aiment manger, quoi. On a passé une quantité délirante de nourriture.
Alors, il y a le restaurant Le Septime qui vous rassemble. Il y a un autre endroit qui vous rassemble, qui est un drôle d'endroit où vous êtes passées toutes les deux.
C'est Fulgurance.
Qui s'appelle Fulgurance. Ah oui. Voilà. Alors, il faut que vous expliquiez aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est Fulgurance. Vous avez été, vous, Chloé Charles, la première femme en résidence, chef en résidence de Fulgurance. C'est quoi, Fulgurance?
Alors, Fulgurance, au départ, c'est deux jeunes gens, Hugo Iverna et Sophie Cornibert, qui sont deux formidables personnes, qui, un jour, sont allés manger dans un restaurant qui s'appelle Noma, au Danemark.
Et juste l'un des meilleurs, voire le meilleur restaurant du monde.
Voilà, et ils se sont aperçus qu'en fait, ce soir-là, René Redzepi, le chef, n'était pas là, et que c'est son second qui avait tout orchestré. Et ce jour-là, ils se sont dit, c'est quand même trop dommage, parce que finalement, on donne toujours la parole au chef, à travers des festivals et compagnie, mais jamais au sous-chef, qui clairement a quelque chose à dire, parce que le chef, et tout le monde le sait, mais c'est dans beaucoup de métiers la même chose, une personne toute seule, c'est un peu plus compliqué de faire des très grandes choses, et ils sont très souvent accompagnés. Voilà, ils ont décidé donc de créer des dîners qui s'appelaient Les Seconds sont les Premiers. J'en ai fait un quand j'étais à Septime, et donc pendant une soirée, on avait l'opportunité de faire découvrir sa cuisine à environ 80 personnes, et ils ont fait une trentaine de dîners de cette manière-là. Et ensuite, ils ont décidé d'ouvrir un restaurant pour laisser la parole sur une durée beaucoup plus longue et en fait préparer les chefs à l'ouverture de leur propre restaurant et permettre d'avoir un espèce de tremplin. Et en fait, derrière, s'occuper uniquement des côtés administratifs, les travaux et compagnie, mais plus se charger, se soucier finalement de sa cuisine qu'on avait déjà expérimentée.
Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience, Céline Pham?
Ça passe vraiment très vite.
Vous y êtes
c'est là que j'ai abordé
6 mois.
6 mois aussi.
6 mois. 6 mois en résidence.
Moi, je suis restée 8 mois, mais parce que j'étais la première, donc ils voulaient que ça dure un peu plus.
Mais c'est plutôt 6 mois. Donc vous avez fait 6 mois, Céline Pham.
Moi, j'ai fait 6 mois et c'était une riche expérience humaine parce que ça ne se limitait pas au service quotidien. Il y avait aussi des rencontres parce qu'ils ont tout un réseau assez international de chefs. Donc j'ai eu des chefs boliviens, des dîners autour du saké en très peu de temps. En fait, il y avait toujours des événements, des rencontres, une façon de s'adapter aux produits, aux nouveaux chefs, etc. Et au-delà de ça, j'ai abordé pour la première fois de ma vie tous les backstage d'un restaurant, quoi, toute l'économie d'un restaurant, toutes les questions de cost, de food cost, de personnel, etc.
Et là, vous vous êtes dit, je n'en ouvrirai pas un moi-même.
Moi, je me le suis dit, moi.
Je me souviens.
Je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça un restaurant. Ça m'a pas du tout dégoûté du métier ou quoi. Je me suis juste questionnée sur. En fait, j'avais une idée quand j'ai commencé le métier juste à la sortie de mon bac. Je me suis dit, j'ouvrirai un restaurant pour mes 30 ans. Et en fait, j'ai eu 30 ans quasiment au moment de la fin de Fulgurance, donc je me suis mis bien en tête à chercher un restaurant. Et en fait, Fulgurance m'a fait beaucoup me questionner sur quel type de restaurant je voulais avoir, sur le fait que je voulais ouvrir à la base un restaurant un bistronomique, entrée, plat, dessert, faire une bonne cuisine de produits, un truc très simple. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas forcément un bon modèle économique, ça va être hyper compliqué. Enfin, j'ai vu pas mal de difficultés, et du coup, j'ai modifié le restaurant que je voulais avoir. J'ai voulu ouvrir un restaurant à Pantin, faire une cantine très bonne du midi, des super bons petits déjeuners, des limonades l'après-midi en faisant mes sirops moi-même et avoir des jambons beurre au comptoir avec une super bière de brasseur. Et le soir, ouvrir plus un format un peu cave à vin, petite assiette à partager pour l'apéro pour tous ceux qui travaillaient dans ce coin-là de la banlieue parisienne, et puis les habitants du quartier aussi. Et finalement, ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais en fait, c'est vrai que Fulgurance m'a vachement aidé à me questionner sur tout ça, alors que sinon j'allais foncer bille en tête sans vraiment y réfléchir.
Je me souviens qu'en
femme
Chloé, je savais, enfin, à Septime, etc., pour moi, c'était évident qu'elle allait ouvrir un restaurant. Enfin, c'était ton truc, t'en parlais tout le temps. On voyait déjà comment il était, le restaurant, quoi.
Et vous, Céline Pham, c'est par
avant
ou par nécessité?
Avant que j'ai décidé que je n'ouvrirais pas de restaurant à Paris. En 2018-2019, enfin même un peu avant, maintenant, quoi. Et j'ai cherché un modèle que je vois maintenant un peu plus, peut-être en province. peut-être plus au contact du produit, etc. En fait, beaucoup de choses m'ont questionné à Paris, la façon dont on est approvisionné, avec ses centrales, ses camions, ses commandes quotidiennes, la question du personnel aussi, comment un métier où on acceptait tout, parce qu'on est quand même une génération avec Chloé où on ne comptait pas du tout les heures et qu'on faisait des journées de 16 heures.
Très, très, très dur.
Sans soucier, franchement, sans jamais réclamer quoi que ce soit.
C'est dur, en même temps, j'en ai jamais réellement souffert. Je dis pas qu'on a tous les jours envie d'aller travailler, mais quand on est dedans et qu'on est passionné, je pense que n'importe quelle personne passionnée qui fait de l'artisanat, il peut travailler 16 heures par jour.
Il compte pas 16 heures, mais enfin...
Après, je voyais quand même des limites à ce modèle, en fait. Comment demander, moi, à mes employés, comment les embarquer dans ça. Et puis, plusieurs facteurs. Et en même temps, parallèlement, j'ai eu des opportunités de voyage et de cuisiner à l'étranger, en France, partout, et rencontrer des gens. Et j'ai commencé...
à vagabonder avec vos cuisines, d'une certaine façon. Alors ça, c'est d'ailleurs un modèle qui se répand et qui se passe aussi, bien entendu d'ailleurs, le plus souvent en dehors de Paris, puisqu'il y a quelques expériences qui sont menées équivalentes à Marseille, à Arles, par Laura Vidal en particulier, à la Mercerie, au Chardon, à Lyon aussi, comme à la piscine. Bon, il y a différentes expériences un peu similaires. Peut-être d'ailleurs est-ce un phénomène générationnel, puisque vous avez à peu près le même âge. Mais il faudrait que vous nous expliquiez du coup l'une et l'autre, et je vais commencer avec vous, Céline Pham, ce que vous faites du coup. Ça veut dire quoi? Vous faites des dîners chez les gens, vous faites des vernissages, vous faites des cocktails, c'est quoi l'idée? Donnez-nous quelques exemples de ce que vous avez fait récemment.
Pas de code, vraiment. Là, récemment, je suis très au restaurant, parce que j'ai monté un restaurant éphémère.
Éphémère, chez Tontine.
Ça sera le 31 décembre. Où j'invite aussi des chefs, etc. Mais aussi pour voir les limites de ce modèle. En fait, je reçois, surtout pour des périodes de 2 semaines à 1 mois, des chefs que j'installe, mais toutes les petites erreurs, entre guillemets, que j'ai vues à l'étranger en allant dans des résidences, j'essaie de pas les reproduire, comme faire un stock démesuré de produits du bout du monde. En fait, j'essaie de sensibiliser les cuisiniers qui passent par Tontine à une économie de restaurant viable, quoi, un personnel fidélisé, des matières premières qu'on fait pas venir, enfin, vraiment réfléchir au menu ensemble en fonction du produit qui est disponible.
Ce qui vous arrive du coup de faire un lancement pour un chausseur, un grand repas à l'occasion d'un concert, une collaboration avec une marque de champagne, des dîners dans un boutique hôtel au Portugal. Donc on voit bien l'idée de ces cuisines volantes. Et puis il y a quand même donc pour quelques mois, depuis avril et jusqu'en décembre. Donc,
mais ce qui m'empêche pas de partir à Londres,
être
la semaine prochaine.
Oui, c'est ça. Ça n'empêche pas de voler toujours. Est-ce qu'il y a une démarche équivalente chez vous, Chloé Charles, de comme un souci politique et social avec une démarche éthique? Vous êtes très soucieuse de la cuisine éco-responsable, par exemple. Est-ce que le fait de ne pas s'attacher à un lieu, c'est lié aussi à ce que disait Céline Pham, de la façon dont les produits nous arrivent, etc.
C'est vrai que je peux toucher du coup un public qui est très différent. J'ai des clients qui me contactent parce qu'ils aiment ma cuisine tout simplement. J'ai des clients qui me contactent en me demandant d'avoir une réelle empreinte zéro déchet sur les menus que je propose. D'autres qui veulent que je les aide à monter leur restaurant, comme Marcotte par exemple, où eux c'est 100% zéro déchet et que je leur transmette un savoir avec qui on a eu une vraie discussion du fournisseur de légumes à comment fabriquer leurs meubles pour que tout ait une empreinte carbone la plus légère possible. Je touche un public qui est très large et je pourrais pas faire autant de choses en ayant un restaurant. Et surtout, c'est très très éclectique. Mes journées sont très très éclectiques. Et c'est ça que j'aime, c'est que je ne retrouve pas la routine du restaurant.
Oui, c'est ça. Au fond, vous vous amusez comme ça, toutes les deux.
Moi, j'ai pas l'impression de travailler.
Céline?
En ce moment, avec le restaurant éphémère, c'est notre histoire.
Mais il est éphémère, hein. Vous allez terminer là.
C'est ça qui me fait me lever le matin.
Allez, on va écouter la Madeleine. Vous restez avec nous toutes les deux. On va retrouver Matteo Carantin.
Bonsoir à toutes et à tous. On va vous présenter ce que vous allez dîner ce soir, s'il vous plaît. Déjà, pour démarrer, vous avez un foie gras marbré à la figue, avec un chutney de medjool et de madras.
Matteo Carantin, vous avez vous aussi rencontré quelqu'un de nomade au fond?
Oui, une nomade, on est très loin du foie gras à la figue. Une nomade lyrique, c'est Marie-Nicole Lemieux qui a posé ses valises à l'Opéra Bastille jusqu'au 13 novembre pour interpréter Suzuki dans Madame Butterfly, mise en scène par Paul Wilson, rien que ça. Alors Madame Butterfly, c'est cette tragédie japonaise qui se joue au tournant du siècle et qui raconte l'histoire tragique et supposée vraie de Cho-san ou Miss Butterfly, Madame Papillon, mal aimée par un officier américain de passage et qui finit par se donner la mort dans un final absolument mémorable. Mais si Marie-Nicole Lemieux est une nomade qui voyage au gré des opéras et des concerts qu'elle donne partout dans le monde, sa Madeleine est bien ancrée à Chicoutimi, près du lac Saint-Jean.
Ma Madeleine, c'est la tourtière du lac Saint-Jean. Pour moi, elle est synonyme de fête, de famille, de rencontre et vraiment de joie. Chez nous, la tourtière, on en mange à Noël, on en mange dans les grands événements, on en mange dans les enterrements. Donc, ça pondère, ça suit notre vie. Une vraie fille du lac Saint-Jean au Québec ne vit pas sans manger de tourtière. Ça ressemble au bec au feu, strasbourgeois, alsacien. Donc, ça prend un creuset, ça prend une pâte qui va recouvrir l'intérieur du creuset. À l'intérieur, on va mettre 5 kg de pommes de terre en petits cubes. Ensuite, oignons, sel, poivre et de la viande. Il faut que ce soit dans un creuset, une cocotte assez grande, parce qu'il faut qu'elle contienne tout ça. Et il faut du temps pour que la coloration des pommes de terre se fasse, pour que les sucs se mélangent, pour que l'aloumi se produise. Et si la tourtière cuit rapidement, ça n'a pas le même goût. Donc, c'est une tourtière qui cuit lentement à feu léger pendant au moins 15 heures. Ma mère, elle la faisait avec mon père, puis j'ai appris en les regardant. Et aussi, il y a ma belle-mère, donc la mère de mon conjoint, qui, elle aussi, a la recette vraiment de nos grands-mères traditionnelles. Et donc, j'ai pris le meilleur des deux mondes. Je suis allée chercher la technique de cuisson de ma belle-mère, puis les ingrédients de ma mère. Lourd, lourd, la tourtière, qu'on savoure, vous, toute entière. Alors, premier plaisir, c'est quand la cuillère entre dans le creuset pour la première fois et la croûte, le bruit de la croûte qui se casse. Et on sort fumant, et là, c'est les odeurs. Ça sent, on dirait un parfum de tourtière, c'est un parfum un peu de pommes, de terre, de viande, mais avec une cuisson, c'est la pâte un peu là, qui ça sent. Et donc là, on le met dans l'assiette. Eh bien, quand on dit juste croquant, c'est pas croquant, c'est pas, mais c'est croquant, fondant, mais c'est un plat mijoté. Donc c'est, moi là, surtout là, c'est que c'est chaud. C'est chaud, c'est complet en bouche. On sent que ça va nourrir. Je sais pas comment écrire.
À Noël, que mange-t-on? La tourtière. Jour de l'an, que mange-t-on?
Voilà le voyage de Marie-Nicole Lemieux. Un grand merci à vous, Mathéo Carantin. Elle est quand même inénarrable, cette Marie-Nicole Lemieux. Alors, Céline Femme et Chloé Charles, je vais commencer par vous, Céline Femme, parce que vous nous disiez tout à l'heure que votre cuisine était quand même au départ un lien, une façon de prolonger le lien que vous aviez avec votre grand-mère et donc la famille. Et il se trouve, je crois que le point de départ d'une recette, justement, chez vous, c'est un voyage, c'est une histoire, c'est une émotion, c'est un souvenir.
Exactement. C'est aussi le produit qui m'est donné. Et après, je cherche une balance de goût toujours. Et c'est vrai qu'on dit que la cuisine vietnamienne est très équilibrée, de par la présence d'herbes, de citron, d'acidité, avec des épices assez subtiles. Et en fait, c'est cette recherche-là que j'essaie d'inscrire dans ma cuisine.
C'est-à-dire le pont entre les racines vietnamiennes et la formation, la gastronomie française, quoi. Voilà.
Et l'équilibre des goûts, en fait, qui est toujours une acidité légère, une légère amertume, parce que au Vietnam on mange, en fait on mange avec un bol de riz blanc et on compose tous les mets sont au milieu de la table. Mmh. Et en fait, très petite, j'ai appris à manger comme ça, avec comme une pâte blanche et des pickles très très salés, un poisson caramélisé donc qui va vraiment sur le sucre, un bouillon assez clair avec des épices, une tonne d'herbes pour rafraîchir le tout.
Mais ça veut dire, Céline Pham, que vous qui faites quand même de la cuisine sur mesure, c'est-à-dire pour des particuliers ou pour des entreprises, ça veut dire quand même que vous avez quelque chose comme une colonne vertébrale en cuisine qui serait la vôtre, qui serait votre identité, qui serait votre patte, même si vous cherchez à vous adapter
à
vos clients.
Mais aussi une grande écoute, c'est quand je parle de souvenirs, je parle pas que des miens, parce que je cuisine pas mal la personne qui me demande de cuisiner.
Pour s'adapter à elle.
Pour s'adapter un peu au goût, déjà, enfin, au choix des protéines, enfin.
C'est ça aussi qui est agréable, c'est que c'est dire, d'accord, alors c'est votre anniversaire, mais du coup, c'est quoi votre plat préféré? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous cuisiner pour que ce jour-là, ça soit le meilleur repas que vous pouvez avoir? Mmh. Et finalement, c'est pas forcément des idées qu'on aurait eues nous-mêmes, qui nous amènent, après on les réinterprète forcément. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la créativité vient aussi de la part de nos clients qui est d'un échange.
C'est ça, et ça veut dire que le sur-mesure ou le nomadisme en cuisine, il n'est pas seulement dans le concept ou dans la façon d'être ou de penser le modèle du restaurant du lieu, mais aussi dans ce que vous offrez à manger, c'est-à-dire dans votre cuisine. Vous aimez particulièrement cuisiner le bœuf bourguignon, mais alors là, le bœuf bourguignon, il s'adapte à n'importe qui, Chloé Charles?
Il s'adapte à n'importe qui, oui et non, parce que c'est quand même un plat qui est assez assez riche, assez rustre. C'est le plat un peu français par excellence. Moi, c'est un plat que j'adore cuisiner parce que on cuisine vraiment. C'est un peu comme la tourtière, ça se cuisine pendant des heures et des heures.
15 heures.
Ouais, franchement, le meilleur bœuf bourguignon, c'est à peu près 15 heures avec des joues de bœuf entre la marinade et tout, la marinade, la cuisson, la réduction, tout ça. Et c'est vrai que voilà, il faut quand même avoir un public averti qui comprenne justement tout le travail qu'il y a derrière. Après, j'ai quand même des clients qui peuvent être assez classiques et qui vont se régaler avec ça. Je l'avais fait dans un dîner qu'on avait, on avait fait un pop-up dans un bar à vin. On avait fait un dîner qui s'appelait Saucé n'est pas trempé et on avait fait que des plats en sauce justement pour que les gens saucent.
On va écouter la cerise sur le gâteau de Camille Labro dans un instant, mais juste un mot sur le lieu, malgré tout, que vous allez ouvrir bientôt à Paris, Chloé et Charles, comme quoi de temps en temps on a quand même envie de poser ses valises quelque part, mais sur le modèle de table d'hôte, c'est ça?
C'est ça, ça sera un modèle de table d'hôte. Céline l'avait un peu expérimenté à un moment aussi avec chez elle. C'est plus pour avoir un lieu, c'est assez égoïste, c'est avoir un lieu où je pose toutes mes affaires et avoir une cuisine unique dans laquelle je cuisine, continuer à aller à droite, à gauche chez des clients et éventuellement, s'ils n'ont pas de lieu pour organiser leur anniversaire, leur réunion ou ce qu'ils veulent, c'est leur proposer le lieu qui va avec et qu'ils puissent venir chez moi. Voilà.
Oui, et la cuisine chez soi, c'est effectivement quelque chose que vous avez aussi expérimenté.
Oui, mais j'ai des limites, c'était les voisins en fait.
Ah, alors il faudra en parler à Chloé Charles avant qu'elle ouvre son lieu.
Non, non,
tous
non
les
je vais pas le faire
l'ouvrir quelque part. Allez, on va écouter la cerise sur le gâteau. Ambiance donc assez polémique sur la scène de la gastronomie, Camille Labro. Lundi dernier, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, vous avez certainement entendu parler du 50 Best, Caroline.
Oui, mais peut-être pas tout le monde.
Ce classement des 50 meilleurs restaurants du monde, lancé en 2002 en Angleterre, concurrent du Michelin, et qui a sérieusement dépoussiéré le genre. En ce début de semaine, le 50 Best organisait donc son premier événement en France. Un colloque suivi d'un cocktail déjeunatoire. Et j'avoue, j'ai failli ne pas y aller. J'ai jamais été très fan de ces raouts gloutons où le petit monde enfariné de la gastronomie vient s'auto-congratuler en sirotant un breuvage sponsor. Mais là, je me suis dit, bon, allons voir où on en est. Et puis, on m'avait dit qu'il y aurait les cookies de ma pâtissière favorite. Et ça, j'y résiste pas. J'enfourche donc mon vélo jusqu'au musée du Quai Branly à Paris. Tout le monde est là, ou presque. Chefs, journalistes, pas mal d'étrangers, des plumes et des couteaux, belges, scandinaves, italiens, sud-américains. Le colloque s'ouvre avec Mauro Colagreco, la star du moment, chef du Mirazur, qui a raflé cette année 3 macarons Michelin et la première place au 50 Best. Après un joli discours autour du métissage culinaire, on passe à la table ronde sur l'évolution de la cuisine française, avec Colagreco toujours, Alain Passard, Yannick Aleno, Bertrand Grébeau et Romain Médère du Plaza Athénée.
Que des femmes.
Et pour ambiancer tout ça, l'animateur de RMC, Éric Brunet. Frémissement dans l'assemblée. Mais que vient faire ce polémiste ici? Un confrère tweet « sacrée faute de goût ». L'animateur donne le ton en s'étonnant que l'on dise « journaliste gastronomique pour les hommes » et « journaliste culinaire pour les femmes ». S'en suivent quelques politesses jusqu'à ce que, devant ce panel 100% masculin, comme vous dites, un commentateur lance « vous parlez de dépasser les frontières et les clivages, mais où sont les femmes ?» Yannick Aleno prend le micro et là, ça dérape. Il y a des freins structurels et sociétaux, assure-t-il. Il évoque la difficulté pour les femmes de travailler le soir, car elles doivent s'occuper des enfants. Et le pompon, je cite, « nous les hommes, on a de la chance, l'ADN des femmes, c'est d'enfanter ». Hurlement dans la salle. Hélène Pietrini, la présidente du 50 Best, tente de rattraper le coup. « Les femmes sont bien là, dit-elle, mais on ne les voit pas encore assez. » Et s'enfonce en précisant que ce sont pour moitié des femmes qui préparent le déjeuner, là, derrière la cloison. Furieux, Bertrand Grébeau se tortille et finit par arracher le micro. Fraîchement papa d'un deuxième enfant, il parle de sa conjointe, Tatiana Leva, chef également, de leur équilibre, du fait qu'ils n'ont pas attendu la société pour avancer. On aimerait l'entendre plus, mais là, Brunet décide de changer de sujet. Questionne Passard sur les jardins qui bredouillent une platitude, et l'animateur évoque alors la France, ce pays où l'on mange tout de même le mieux. Brouhaha dans l'assemblée, très cosmopolite. Un chroniqueur surnommé Grand Mangeur vocifère « Fuck les frontières, le meilleur bœuf de ma vie, je l'ai mangé à Ouagadougou !» Hélène Pietrini court alors sur scène pour éteindre l'incendie. L'assemblée est sous le choc, au point que l'on écoutera à peine les deux interventions finales de la chef brésilienne Manuela Bufara, ouf, une femme, et du New-Yorkais Dan Barber. Pantalonnade, guet-apens, préhistoire, conclura-t-on autour du buffet. Ce n'est pas la première fois, Caroline, que l'on parle de sexisme et de parité en cuisine, mais là, le sujet a atteint des sommets d'absurde. Les femmes sont bien là. Deux consoeurs en ont recensé 500, rien qu'en France. Or, elles ne sont que 5 au 50 Best, qui continuent par ailleurs de décerner chaque année un prix de la « Best Female Chef », comme une espèce de lot de consolation. Mais quand les femmes seront-elles considérées au même titre que les hommes ? Une chose est sûre, pour une vision saine de la question, il y a encore du pain sur la planche.
Merci Camille Labro. On retrouve cette chronique à l'écrit sur notre page internet des bonnes choses. Et comme on a deux chefs ici autour de la table, j'ai nécessairement envie de vous demander ce que vous pensez de ce qui s'est passé, Céline Pham.
Je crois qu'il y avait encore plus absurde, il y avait le best... Wife of a chef of a...
Ouais, je sais pas si c'était le 50 Best qui a fait ça. C'était un autre prix très très absurde.
Atterré, j'ai l'impression. Médusé, Chloé
et
Charles.
Moi, je pense que les femmes ont tout à fait leur place en cuisine et que plutôt que d'essayer de nous appeler femmes chefs ou je ne sais quoi, déjà, on n'appelle pas les hommes chefs. Je pense qu'on pourrait nous appeler chefs tout court ou cuisinières, ce qu'ils veulent, mais pas forcément besoin de préciser. Et que il n'y aura plus vraiment de différence à partir du moment où on mettra les femmes et les hommes dans le même panier. Il y a certes moins de femmes qui travaillent en cuisine parce qu'elles arrivent progressivement. Et surtout, voilà, les classes aujourd'hui sont remplies de femmes, mais il faut aussi qu'elles deviennent chefs. Et ça va arriver, donc invitez-nous et arrêtons aussi de faire des dîners 100% féminins. J'ai encore été invité à un dîner 100% féminin, j'ai refusé.
Et la mixité, c'est ça ?
Exactement,
la mixité. Merci à toutes les deux, Céline Pham et Chloé Charles. Puisque vous n'avez pas de lieu fixe, on peut retrouver de toute façon votre lien internet à toutes les deux, hein. Céline Pham et Chloé Charles, vous avez chacune un site. On a quand même la possibilité, quand on habite Paris ou qu'on va y venir, d'aller chez Tontine jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois de décembre, Céline Pham. Chez Tontine, c'est au Perchoir, dans le 11e arrondissement à Paris. Et puis, on va suivre donc l'arrivée de cette table d'hôtes chez vous, Chloé, chez vous, chant que ce soit chez vous, Chloé Charles. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Virginie Leduo, Stéphanie Villeneuve, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Adèle Caglar, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signe des Temps par Marc Weitzmann.